Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui, franchement, interroge. Comment les grands modèles de langage, les fameux LLM, comment ils pensent? Est-ce qu'ils ont une langue de prédilection, genre l'anglais, même quand on leur parle en français, en espagnol ou autre? C'est une question qui revient souvent. Mais voilà, une nouvelle étude parue sur Archive vient un peu bousculer tout ça. Elle suggère une vision assez différente de ce qu'on imaginait.
Oui, tout à fait. Pendant longtemps, l'idée dominante, c'était celle de la pensée en anglais. Ça venait d'observations assez techniques, en fait. Quand on regardait l'activité interne des neurones, ça ressemblait souvent à des motifs qu'on associait à l'anglais.
Loïc, vu que les premières données d'entraînement étaient massivement en anglais.
Exactement. C'est une déduction assez naturelle.
Sauf que les modèles récents, ils sont devenus bluffants dans plein de langues. Parfois, ils sont même meilleurs dans une autre langue que l'anglais pour des tâches spécifiques. Du coup, l'hypothèse de base, elle commence à moins tenir la route, non?
C'est exactement là où ça devient intéressant. Et c'est ce que cette nouvelle étude explore. La découverte majeure, c'est l'identification de ce qu'ils appellent un espace de paramètres fondamental agnostique du langage.
Agnostique du langage, ça veut dire quoi concrètement?
Indépendant de la langue.
C'est ça. Imaginez un tout petit noyau, un sous-ensemble vraiment minuscule de paramètres à l'intérieur du modèle. Ce noyau semble traiter l'information à un niveau plus conceptuel, plus abstrait, sans se soucier de la langue spécifique utilisée en entrée ou en sortie.
Un peu comme un traducteur universel interne, mais pour les concepts? On pourrait le voir comme ça, oui. C'est une idée assez forte, parce que ça suggère que le modèle ne fait pas que jongler entre les langues. Il construit peut-être une représentation du sens qui les dépasse.
D'accord. Mais si ce noyau est si petit, comment il peut avoir un impact aussi global? Vous disiez que sa désactivation affecte toutes les langues.
C'est le point clé, oui. C'est minuscule, mais critique. Quand les chercheurs l'ont désactivé expérimentalement, les performances du modèle se sont effondrées. Et pas juste un peu, dans toutes les langues testées.
Ah oui, carrément.
Oui, ça montre bien que ce n'est pas juste un petit bonus, c'est essentiel à sa capacité de généraliser, de raisonner au-delà d'une simple traduction mot à mot. C'est ça qui lui permet de comprendre en quelque sorte.
Et comment ça se forme, ce noyau? Est-ce qu'on sait d'où viennent ces paramètres agnostiques?
Alors, les chercheurs ont regardé de plus près les neurones eux-mêmes. Ils ont fait une distinction intéressante. Il y a des neurones exclusifs qui s'activent principalement pour une seule langue et des neurones partagés.
Partagés, donc actifs pour plusieurs langues en même temps.
Voilà. Et ce qu'ils ont observé pendant l'entraînement du modèle, c'est une évolution très nette.
Ah, laquelle?
Eh bien, la proportion des neurones partagés augmente. Et surtout, leur importance fonctionnelle, leur rôle dans le traitement devient de plus en plus grande. En parallèle, l'influence des neurones exclusifs, ceux spécifiques à une langue, diminue.
Donc, le modèle apprend à mutualiser ses ressources pour traiter le sens commun à plusieurs langues.
C'est exactement ça. Ces neurones partagés, ce sont eux qui forment l'ossature de cet espace agnostique dont on parlait. C'est fascinant parce que ça suggère que le modèle développe une sorte de capacité de pensée abstraite détachée des spécificités de nos langues humaines.
Une pensée abstraite, c'est vertigineux comme idée.
Tout à fait. Et le fait que désactiver juste ces quelques paramètres partagés ait un effet aussi dévastateur, ça montre à quel point cette structure abstraite est fondamentale pour le fonctionnement global du modèle.
Est-ce que ça ouvre des pistes concrètes pour entraîner de meilleurs modèles, par exemple?
Oui, potentiellement. Les chercheurs suggèrent qu'on pourrait adapter les stratégies d'entraînement. Par exemple, en ciblant spécifiquement ces neurones partagés à certains stades pour peut-être accélérer le développement de cette capacité d'abstraction ou améliorer les performances multilingues de manière plus efficace. D'ailleurs, il faut noter qu'ils ont validé ces observations sur différentes familles de modèles, comme Llama, Mistral, Gemma. Ce n'est pas spécifique à une seule architecture, ce qui rend l'idée encore plus solide.
Donc, pour résumer, si on devait simplifier, loi de juste penser en anglais et traduire, les LLM développeraient un cœur de traitement conceptuel. Une sorte d'interlingua interne, si on veut.
C'est une bonne image, oui. Ça nous oblige à voir leur fonctionnement différemment. L'IA ne se contente pas d'imiter la surface de la langue. Elle construit peut-être des structures internes pour manipuler le sens, d'une façon qui transcende nos propres systèmes.
Impressionnant. Et ça nous laisse avec une question pour la fin. Si les LLM peuvent développer cette forme de pensée abstraite, presque indépendante du langage humain, quelles autres capacités cognitives complexes, qu'on n'a pas forcément prévues ou programmées, pourraient bien émerger avec leur évolution future?
Excellente question pour continuer la réflexion. Ça ouvre des perspectives assez incroyables sur l'avenir de l'intelligence artificielle.